qui récoltent le magot, y a ceux qui creusent, y a ceux qui récoltent le loto, et y a ceux qui pleurent. Oh man, oh man, oh subterfuge, ce Mandela, sa vérité, c'est ta vie.
Vous êtes bien à l'écoute de Radio Canu, c'est le Canu Info. Aujourd'hui au programme, on va tout d'abord parler de l'international avec un petit reportage sur l'Amérique latine et les luttes en cours au Chili. Ensuite, on ira du côté du Notav avec la répression qui se fait en ce moment sur des manifestants du côté de Turin. Ensuite, on passera à Istanbul où il y a eu des manifestations violentes et aussi des morts ce jeudi soir, enfin dans la nuit de jeudi à vendredi. Et enfin, on ira faire un tour du côté du Brésil pour voir un petit peu comment se prépare la Coupe du Monde là-bas. Voilà. Enfin, on passera du coup au national où on parlera de l'appel à soutien pour le squad de Calais. Et au niveau du local, on vous parlera de la situation des mineurs étrangers isolés à Lyon et de la lutte contre l'OL Land.
Et du coup, pour commencer, on vous passe du coup nos célèbres reporters en Amérique latine et aujourd'hui un reportage sur le Chili.
Gritan, que tiro carajo. Gritan, luchar vencer obreros al poder.
Luchar, vencer, obreros al poder.
los trabajadores.
Place y los que luchan.
Celles et ceux qui luttent.
Un viaje de dos meses.
Un voyage de 2 mois.
En Argentina y en Chile.
En Argentina.
Para encontrar compañeros y compañeras que luchan cada día.
Pour rencontrer des compagnons et compagnoles qui luttent chaque jour.
Para entender la historia y la realidad de estas luchas.
Pour comprendre l'histoire et la réalité de ces luttes.
Para aprender de ellas.
Pour apprendre d'elles.
Un programa de Radio Canu.
Une émission de Radio Canu.
Nous, maintenant, on est au Chili. On vous a préparé un petit patchwork de rencontres et de luttes de l'autre côté de la frontière, en Argentine.
Dans ce reportage, il y aura d'abord Miguel, un musicien de Ticara, qui parlera de la lutte contre la mine. Après, on partira à Buenos Aires, dans un quartier qui a commencé par une toma de tierra, une prise de terre. Enfin, on finira par un petit reportage dans une manifestation d'enseignantes à Salta.
Entretien avec Miguel Chiabé, musicien de Tilcara. Tilcara, ville située au milieu de la Quebrada de Humahuaca, classée au patrimoine mondial de l'humanité. Dans cet entretien, il nous parle du risque de la création d'une mine à ciel ouverte dans la Quebrada et des inégalités en Argentine.
Ici, c'est un site qui est connu pour être un site naturel et qui a été reconnu comme tel, et c'est ce qui fait l'économie du lieu. Et maintenant, ils veulent passer à autre chose en faisant une mine.
Oui, c'est très paradoxal, c'est l'absurdité, c'est d'être classé patrimoine culturel et paysagistique. Et aujourd'hui, il y a un risque de tout détruire. Pour cette activité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Argentine aujourd'hui, on vit d'une superficialité de tout, de qui on peut changer, de qui on peut trahir, tout ça pour l'argent, mais dans au risque d'être regardé comme. Si ça puisse arriver, ça, c'est un scandale international incroyable. Considéré patrimoine paysagistique, et on va détruire la mine à ciel ouvert. Il s'agit de se faire disparaître une montagne. Elle est plus là, on l'a fait exploser. C'est la façon la plus sauvage de détruire l'environnement. Il y a 30 ans, je disais, parce que cette région était toujours oubliée, je disais il y a 30 ans, les gens sont vraiment incapables, vraiment pas créatifs, imaginez-vous, parce que c'est une région très belle pour vivre, pour développer la vie et tout. Ils n'arrivent pas à détruire, on ne fait pas disparaître la montagne parce qu'on ne peut pas. Je disais, dans toutes ces bêtises qu'ils faisaient, mais on ne va pas détruire une montagne. Mais aujourd'hui, nous sommes là dans la plus absurde des choses, dès que vient une activité et fait disparaître une montagne. C'est incroyable ça. Pour moi, que j'ai vécu il y a 30 ans, on n'imaginait pas ça. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette hypothèse, non pas une hypothèse, c'est une réalité. Et que nous sommes très vigilants pour que ça n'arrive pas. Oh, j'espère que sûrement il y aura lutte, parce que c'est des grandes compagnies qui ont un pouvoir économique énorme et politique, et c'est pas les propriétaires de ces compagnies minières, c'est les mêmes des gens qui dirigent l'économie mondiale et aussi la fabrication d'armes. Ils sont dans le pétrole et tout comme par hasard. Donc c'est des gros pouvoirs économiques. Et bon, j'espère que nous tiendrons bon pour qu'il n'arrive pas ça ici.
Il y a déjà une assemblée de voisins qui s'est, enfin d'habitants qui s'est créée.
Il y a il y a des voisins qui ne sont pas vraiment des gens d'origine d'ici, qui sont le plus constitués, que je regarde avec méfiance, et beaucoup de gens d'ici regardent avec méfiance. On sait bien qu'il y a beaucoup de gens qui se déguisent pour des causes nobles, et après détournent l'argent qui vient de l'étranger pour aider, justement. Ils n'ont pas d'explication sur cet argent qui vient. Donc ils ont trouvé une entrée d'argent facile, si on peut dire. Est-ce qu'on verra bien si ça se traduit vraiment en aide pour... Et c'est pas des gens d'ici, hein? Comme par hasard. C'est... Il y a plein de... Déjà, par exemple, ça touche à la France, ça. Il y a l'assassinat des deux filles françaises qui sont venues ici et qui faisaient une enquête sur l'argent qui devait aller vers les peuples de la forêt des Salta, et qui était détourné par un ministre qui s'appelle López Astre, et qui était lié aussi à quelqu'un d'origine française et qui est sur une fondation qui est de Tilcara. Ça, je le sais pour un journaliste de Salta. Bon, qu'est-ce qui se passe là avec cet argent? Pourquoi ces journalistes sont mêlés? Et les deux filles françaises, ils disparaissent, ils sont violés, assassinés brutalement et tout. Et l'État, le gouvernement de Salta, il cache tout ça. Il y a un chef de police qui se suicide et deux autres hauts fonctionnaires de la police qui suivent le cas, l'enquête.
Tu parlais des inégalités au niveau de l'Argentine, donc plus il y a plus de pauvreté dans le nord, à Buenos Aires ils ont plus de moyens pour l'accès aux soins, et c'est l'inégalité, elle se retrouve plus au niveau des provinces, ou c'est aussi au sein des provinces, par exemple ici il y a beaucoup d'inégalités.
Oui, par exemple dans notre province, la capitale de cette province, San Salvador de Jujuy, elle a un regard pas seulement au niveau gens communs, sinon au niveau gouvernement, de regarder cette région avec un certain mépris. On paye des impôts peut-être plus que les autres, et on ne voit pas que cet impôt revient pour nous, au niveau service. C'est ça le but des impôts. Et dans l'attitude aussi de regarder avec la culture et tout ce qu'il y a ici avec un certain mépris. Malgré que cette région a été classée patrimoine culturel paysagistique, et est difficile de faire entrer dans la mentalité des gens de qui doivent plutôt garder avec comme un trésor précieux ça, et considérer tout ce qu'il y a dedans.
Thank you.
contexte, c'était quoi les chiffres, par exemple, pour l'argent que l'État donnait pour la santé entre ici et Buenos Aires?
Et pour quelqu'un de la province de Jujuy, l'État national, à un moment donné, il y a 3 ans, dépensait 40 pesos. Environnement, c'était pas très bon, on va arrondir 40.
Donc à peu près 4 euros.
Et pour quelqu'un de la capitale, Buenos Aires, 1400 pesos.
Donc 140 euros à peu près par an.
Et ça, c'était, il comparait par rapport à l'ensemble de la province de Jujuy ou par rapport à la ville de San Salvador de Jujuy?
Je crois que dans les services, on voit bien que ici, l'attention médicale à Tilcara, que ce n'est pas un village perdu, c'est quand même un village dynamique, on n'a pas la même attention médicale qu'à San Salvador de Jujuy. Et que ce n'est pas énorme non plus. Il y a une différence. On peut mourir en pneumonie ici. Et c'est déjà fait en hiver passé. Et l'ambulance qui peut pas on ne peut pas traiter un patient en pneumonie et qui était dérivé à San Salvador de Jujuy qui est mort dans le chemin, le patient. C'est des trucs incroyables. Donc là, on voit bien que c'est inégal quand même. Je ne peux pas donner chiffres, mais dans un ensemble de 60 000 personnes, pas seulement Tilcara, sinon des villages qui sont les plus proches, peut-être il y a un moment donné 60 000 personnes qui n'auront pas cette possibilité d'être soignées, comme dans un pays occidental. On est plutôt dans l'Afrique, peut-être, je ne sais pas. On ne va pas donner l'image de l'Afrique, sinon dans un endroit où il n'y a pas d'opportunité d'être soigné aujourd'hui et peut-être de risquer la mort parce qu'on n'a pas reçu des soins élémentaires, mais c'est, dire, c'est un bloc opératoire. Un bloc opératoire qui ne dit pas soigner un cancer, mais bon, d'avoir un bloc opératoire, nous sommes quand même un conglomérat de 60 000 personnes qui payent des impôts. C'est-à-dire qu'on devrait avoir tout cet accès aux soins.
Comme le dit Miguel, en Argentine, les inégalités, elles sont multiples, entre les provinces, mais aussi au sein des provinces. Si la province de Buenos Aires est l'une des plus riches et privilégiées du pays, il n'en reste pas moins qu'en son sein, les inégalités sont très fortes. Les habitants de cette province, pauvres et sans terre, ont effectué une tomate tierra, une prise de terre. Ils occupent ces terres et luttent pour les transformer en un habitat digne. On part les rejoindre au sud de la ville de Buenos Aires.
Alors, nous voilà dans le barrio de la Esperanza et on voit qu'il y a une photo du Che Guevara, c'est une maison faite en bois, il y a quelques tables et là on attend, il y a les enfants qui viennent souvent venir voir plusieurs volontaires qui travaillent ici, qui ont aidé à faire les plans du barrio. C'est quoi l'histoire de ce quartier?
Bueno, el barrio ese, o sea, se originó a partir de una toma de tierra, una ocupación que se hizo. Fue el día 29 de julio de 2012.
Alors, ça a commencé le 29 juin 2012 et ça a commencé par une occupation de terre.
El barrio está conformado, o sea, está en la cerca de Buenos Aires, la ciudad de la capital federal argentina, pero digamos que es una de las últimas zonas, digamos, del todavía del conurbano bonaerense. A partir de acá empieza como más zona de campo.
Dans la province de Buenos Aires, mais c'est vraiment dans la dernière zone de la banlieue. Après ça, c'est vraiment la campagne.
Y en donde, nada, o sea, la gente va a Capital y tiene su laburo allá en Capital o otra zona de provincia, y acá vive, más que nada, duerme y nada de eso.
Elles vont travailler à la ville, à la capitale, ou dans d'autres petites villes à côté, elles reviennent dormir ici. Ici, à cause de la spéculation immobilière, et c'est lié aux difficultés qu'il y a à avoir un appartement, parce que du coup les salaires sont trop bas et le gouvernement t'aide pas du tout pour accéder au logement.
Alors ça devrait être un droit constitutionnel.
Et bueno, son gente de acá de conurbano, bonaerense, de otras provincias de Argentina que viene a Buenos Aires, y gente de mucha gente de inmigrantes de Paraguay. Principalmente, hay una población muy grande acá de Paraguay.
Hay muchos de gente que vienen de otras provincias de Argentina, y muchos que vienen de Paraguay, que son des inmigrantes, que vienen de Bolivia también.
Perú también, hay de bastante inmigrantes. Son cerca de 360 familias.
360 ponele... familias.
Sí. No sé hacer las cuentas bien, pero bueno, entonces cuando se llegó acá, tener en consideración eso, lo que. Esa consigna que queríamos, o sea, a través de buscar una vivienda digna, un lugar para poder vivir, para poder criar los hijos, para poder criar la familia. Lo que también se hizo fue que se pensó eso como no como una villa, sino que constituirse un barrio realmente, un barrio para vivir, un barrio para tener un bienestar así también.
En plus de vouloir avoir un lieu pour vivre ici, dès le début, ça a été le but de pas faire un bidonville, mais de faire un vrai quartier pour vivre dans des conditions dignes.
Bueno, en eso los propios vecinos han hecho totalmente con sus manos la división de manzana, la planificación de espacios comunes como ese que te deja un espacio, por ejemplo, para una cancha de fútbol, un espacio del acero, un centro cultural y ese tipo de cuestiones.
Et dans ce but, les habitants, ils ont créé un plan du quartier en divisant les parcelles et en laissant des parcelles qui sont des biens communs comme là où on est, qui est un centre social.
Bueno, así como también pusieron agua, luz, electricidad, todos los servicios básicos fueron puestos todos por los vecinos. O sea, acá el Estado nunca ha llegado.
Y es la misma cosa por todos los servicios de base, l'eau, l'électricité. Ça a tout été apporté par les voisins eux-mêmes sans que l'État leur vienne en aide.
Bien. Y hoy lo que planteamos y estamos peleando también es por, digamos, un proyecto habitacional que se mantenga las características que hemos trazado. Por ejemplo, acá tenemos lotes de 10 metros por 50 metros. Son lotes bastante grandes que tienen que ver con lo que planteamos también, que sea un lugar donde uno puede desarrollar su casa, su familia, tener sus animales, su huerta, y que son familias numerosas, entonces que se puede desarrollar todo lo que nosotros planteamos con vida digna.
Alors, ici, il y a vraiment des parcelles qui sont très grandes, ça fait des fois 10 mètres sur 50, et c'est vraiment pensé pour que les personnes elles puissent avoir leur famille nombreuse, leurs animaux.
Leur jardin.
Et c'est en ça que ça devient un logement digne. Il y a les enfants du quartier qui viennent d'arriver.
Il y a quand même Fred, non?
La Nina aussi habite ici, elle habite en face.
Bien. Yo tengo 9 años y somos 7 hermanos.
Ah, j'ai 9 ans y on est 7 frères et sœurs.
¿Y qué hay? ¿Está lleno de qué acá?
De sapos.
¿Está lleno de sapos?
¿Cómo es? Ah, hay des ateliers grenouilles.
Lo cazamos nosotros.
Ellos cazan sapos. Y los crían después para comerlos.
Ok, alors il y a des ateliers grenouilles pour
les
manger les grenouilles.
Si, sí. Sí, acá la gente, cuando llegó acá, o sea, la gente, había gente muy, muy, muy pobre, así que, sí, en realidad no tenía cuestiones para comer y eso terminaba siendo como son medio de.
Les gens qui sont venus, ils étaient très pauvres au début, enfin, ils étaient pauvres, et du coup, ils ont mangé les grenouilles qui étaient là.
En el centro cultural pintamos, escribimos y dibujamos con la seña con lápiz de colores.
Dans ce centre culturel, on écrit, on lit et on peint avec plein de couleurs.
Tenemos una cama de dos plazas y una cama de cuchillo.
¿Sí?
Dormimos todos juntos.
Dormimos todos juntos.
Et dans ma maison, du coup, on a deux lits, un lit pour les parents et sinon on a un lit pour les enfants et on dort tous ensemble. Ici, il n'y a pas forcément tout le temps des grosses assemblées, mais ça va être des petites assemblées par groupement de maisons, en fait, par petit quartier dans le quartier. Et c'est ces assemblées qui vont faire après des délégations qui se rejoignent pour aller voir, par exemple, des choses à La Plata, dans la province ou autre chose. Ce qui se passe ici, enfin, au niveau politique, c'est vraiment la question de l'autonomie et de la conscience de classe. Et les gens, ils se mobilisent pour ce qui les concerne, de prendre les terres, d'avoir de l'eau, etc. Et c'est vraiment une lutte des habitants pour leurs droits.
Ça, il y a plusieurs questions. O sea, la salud, acá, los puestos de salud no atienden. Acá, lo que está, hasta el fin de año pasado, se atendía acá un médico que venía.
Avant, il y avait un médecin qui venait ici pour les questions de santé, mais les secours ne peuvent pas arriver jusqu'ici.
Bueno, los puestos de salud, los hospitales acá en realidad no atienden mucho, no tienen insumo, y también hay un tema de discriminación para con la gente de la toma también.
Et par exemple, l'hôpital dans le coin, il n'accepte pas tout le monde parce qu'il y a aussi beaucoup de discrimination avec les gens qui habitent dans la toma d'ici.
Partout, c'est la grève des enseignants.
Du coup, c'est une grève pour réclamer un salaire digne, ce qui est une partie du salaire qui est payé en noir. Et du coup, c'est toute la province de Salta avec les écoles qui sont présentées par des tentes et des tentes où des gens campent, ou alors des tentes où il y a de la nourriture qui est préparée collectivement. Il y a des banderoles un peu partout. Et autour de la place, du coup, il y a une grande manif en musique qui tourne autour de la place.
La manifestation est la revendication de nos droits. Une grande partie de notre revenu est au noir. Alors ce qu'on demande basiquement, c'est que les salaires de base soient augmentés. L'offre du gouvernement, c'est que bon, le salaire a augmenté, mais ça ne permet pas de faire un salaire final avec le Black qui permet d'être en accord avec la réalité du pays. Bien qu'il y ait eu des améliorations ces dernières années, on est la province qui paye le moins ses enseignants. C'est une province où il y a beaucoup de rentrées d'argent par le tourisme, mais on ne se sent pas écoutés. On est tous ensemble, en tout cas, ceux du privé, ceux du public, et on veut qu'ils nous écoutent en définitive, et qu'ils nous augmentent. La lutte des enseignants existe de partout, dans toutes les provinces, mais par exemple, dans la province de Cordoba, les enseignants sont mieux payés. Alors, la lutte enseignante, c'est un peu comme un coin oublié de l'Argentine.
Et du coup, là, il y a des articles de journaux qui expliquent un peu la lutte des enseignants. Qui disent là il y a eu une grève où il y avait 80% des enseignants qui étaient dans la rue. Et on voit également en fait un panneau où ils expliquent un peu que Salta c'est vraiment l'une des provinces les plus pauvres d'Argentine. Salaire des enseignants dans les différentes provinces et ils mettent qu'à Salta un enseignant il gagne 1536 pesos, ce qui fait l'équivalent de 153 euros, sachant que là, vu qu'il y a eu l'inflation de 30%, la vie elle est quand même vraiment chère ici.
Y en las escuelas en la zona del campo, sobre todo en la zona de la Puna.
Dans les écoles de la campagne, surtout celle de la Puna. On ne leur donne plus le goûter pour les enfants, pour qu'ils se nourrissent, bien qu'il y ait de la dénutrition. Alors la lutte des enseignants, c'est pas que pour les salaires, c'est aussi pour l'école.
Et il y a aussi des parents qui soutiennent la lutte des enseignants.
Il y en a quelques-uns, mais bien sûr c'est difficile parce qu'il y a eu un mois de grève. Alors il y a beaucoup de cours qu'on sautait. Mais le gouvernement est inflexible et on espère qu'il y aura une solution le plus vite possible.
Et il y a beaucoup de tentes là sur la place principale. Ça fait longtemps qu'elles sont là ces tentes.
Oui, ça fait de multiples semaines qu'ils campent ici. Il y a aussi un enseignant qui est en grève de la faim. Ils l'ont interné à l'hôpital Saint-Bernard hier ou avant-hier parce qu'il était trop faible. Là, il y a des enseignants qui sont venus de San Antonio, de Las Cobres, c'est à 200 km dans la montagne de la capitale de la province et ils sont venus en marchant. Moi, je suis de Rosario de la Frontière, au sud de la province de Salta, à côté de Tucumán. On est tous venus en voiture, en trafic, pour manifester.
Et il y a beaucoup de manifestations comme celle-là ?
Oui, 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 il y en a beaucoup.
Et il y a beaucoup de répression ici, de la répression par la police ?
Il y en a eu. J'étais là ces derniers jours et il y a eu un affrontement.
Alors là, ils sont en train de chanter une chanson, ils nous ont donné les paroles. Donc ils viennent descendant de la vallée, les enseignants à la ville, avec leur sac sur l'épaule, ils viennent tous protester.
La lutte des enseignants est légitime et c'est ce qu'ils nous ont expliqué dans les manifs. Légitime pour un salaire digne, légitime pour de meilleures conditions pour les enfants. Pourtant, cette lutte ne fait pas l'unanimité. Dans notre voyage, on a rencontré aussi quelques parents qui nous expliquaient que les formes de la grève ne prenaient pas en compte les difficultés que cela engendrait pour les parents et les enfants.
Parce qu'en fait, avec cette grève, c'est parfois un mois où il n'y a pas de classe, des parents qui galèrent pour faire garder leurs enfants, des enfants qui prennent du retard. Et au-delà d'être qu'un argument du gouvernement et des écoles privées qui fleurissent en Argentine, ça c'est aussi des vraies difficultés et des inquiétudes pour les parents. Il y a d'autres provinces, ça s'est pas passé comme ça. Par exemple, dans la province de La Rioja, à Chilecito, dans un petit village, les enseignants et les parents, pendant cette grève, ils avaient opté pour une autre forme de lutte. C'était une grève où les enfants y continuaient à aller en cours, où certains parents gardaient les enfants pendant les manifs, où des écoles s'ouvraient à d'autres formes d'éducation pendant les grèves au lieu de se fermer.
Re- Retour maintenant après ce reportage en Amérique latine sur les luttes notaves. Alors si on vous en parle aujourd'hui, c'est que depuis hier, il y a un procès qui s'est ouvert à Turin, le procès de Chiara, Claudio, Mattia et Nicolo, qui ont été accusés d'avoir participé il y a un an à une attaque nocturne du chantier de la ligne TGV devant relier le Lyon à Turin. On a pu voir par exemple aujourd'hui dans la ville de Lyon sur le consulat d'Italie, rue Commandant Forax, des tags qui disaient « Notave Liberi ». Et donc ça fait référence à ce procès d'opposant du projet TGV Lyon-Turin qui se tient actuellement en Italie. Alors pourquoi est-ce que Chiara, Claudio, Mattia et Nicolo passent en procès? Ils sont accusés d'actes de terrorisme à l'aide d'engins pouvant entraîner la mort ou explosifs, dégradation par voie d'incendie, violence contre agents de police, détention et transport d'armes de guerre. Cette qualification correspond en fait à un acte de sabotage collectif qui a été mené en mai 2013 dans la lignée de multiples attaques du chantier du Lyon-Turin. Il faut savoir que le mouvement Notave en Italie assume depuis plusieurs années le sabotage comme un de ses moyens de lutte et c'est quelque chose qu'il revendique. Donc Chiara, Claudio, Nicolo et Mattia, ils ont été arrêtés en décembre 2013 sur les bases d'une reconnaissance vocale. Et ils sont toujours incarcérés en section AS2, donc ça veut dire que c'est une section en haute sécurité maximum. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont en isolement quasi total, ils ne peuvent recevoir la visite que de leurs parents et seulement 2 heures par mois. Leur correspondance est systématiquement lue et versée au dossier. Donc leur procès, il a lieu dans l'Aula Bunker. Alors qu'est-ce que c'est que l'Aula Bunker? C'est une salle d'audience spécialement construite à l'intérieur de la prison de Turin. C'est vraiment un procès qui est mis en scène et ça vise à appuyer la figure du terroriste notave. Les journaux et les médias en général participent à cette campagne d'assimilation des notaves aux brigades rouges et au terrorisme en général. Les inculpés ne pourront même pas être présents dans la salle d'audience. Ils participeront au procès chacune depuis leur cellule par visioconférence et ceci à la demande des procureurs. Il faut savoir que si la qualification de terrorisme avec tentative d'attentat à la vie d'autrui est maintenue, Claudio, Mattia, Nicolo et Chiara risquent au moins 20 ans de prison. Donc il y a une mobilisation un peu générale en France, en Italie et ailleurs qui s'est montée pour soutenir Chiara, Claudio, Mattia et Nicolo. Et donc par exemple en France, il est possible d'écrire aux camarades en prison. Vous pourrez trouver les adresses sur le site de Rebellion si vous souhaitez leur écrire. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas encore ce que c'est que cette lutte notave, je peux vous faire un petit rappel des faits. Le notave, c'est du coup une lutte contre un projet de TGV qui a été pensé depuis 1994. Et donc, c'est le projet d'une nouvelle liaison ferroviaire qui prévoit de creuser le plus long tunnel d'Europe. C'est un tunnel qui est censé faire 57 km pour franchir les Alpes. Avec à peu près 40 millions de tonnes de marchandises par an et pour faire gagner du temps aux voyageurs entre Lyon-Turin. Il faut savoir que le temps qu'on gagnerait, ce serait entre une demi-heure et trois quarts d'heure. Donc c'est un projet qui est annoncé finalisé pour 2023 et c'est un projet qui coûterait en gros 24 milliards d'euros, dont 7,7 milliards pour la partie française, 6,3 milliards pour l'Italie et 10 milliards pour le tunnel qui serait international. Et donc elle implique, en plus du tunnel international, le creusement de tunnels sous les massifs de Belledonne, de la Chartreuse et de l'Épine, et la construction de 200 km de voies nouvelles en France. Donc ce projet, il est appelé TAV. TAV, ça veut dire Treno Alta Velocita. Et il se heurte à une résistance massive et déterminée des habitants du Val di Susa depuis plus de 20 ans, depuis 30 ans à peu près maintenant. Alors ces luttes, elles ont connu des hauts et des bas. Elles ont été très fortes dans les années 90. Et elles ont connu un renouveau au début des années 2000 et surtout là, au début des années 2010. Il y a eu une manifestation le 25 février 2012 qui a réuni 70 000 personnes. Et à partir de ce moment-là, il y a un camp qui s'est monté, un camping de lutte qui s'est tenu tout l'été. Et une résistance qui s'organise quotidiennement à travers des différents collectifs locaux notaves que vous pouvez retrouver à Lyon, à Chambéry, à Grenoble, mais qui existe aussi à Paris et bien entendu en Italie. Il y a une énorme répression et donc il y a une violente expropriation policière des parcelles appartenant aux opposants. Et à partir de février 2012, les premières pelleteuses travaillent sur le site de Maddalena. Donc aujourd'hui, ils sont en train de construire ce projet notave. C'est derrière des barbelés militaires, ça veut dire qu'ils ont fait appel à l'armée, qui font plus de 3 mètres de haut, qui sont protégés en permanence par des dizaines de soldats et de policiers pour un surcoût d'au moins 50 000 euros par jour. Et depuis cet été, il y a des centaines d'habitants du Val des Susa qui sont identifiés comme opposants à ce projet, qui sont interdits de circulation dans leur propre vallée. Donc le mouvement Notav dénonce depuis toujours cette occupation militaire du Val des Souza, ainsi que la spoliation de biens et d'argent public au service d'intérêts privés. On ne va pas revenir maintenant dans cette émission sur pourquoi lutter contre les projets inutiles, mais rappelons quand même brièvement que c'est un projet qui ne marche pas. De fait, on peut noter la sous-utilisation des capacités de la ligne ferroviaire historique. On peut noter que l'utilisation des trains ne remplacera pas les poids lourds qui continueront à faire des allers-retours entre la France et l'Italie, que ça va affaiblir sensiblement la situation économique des vallées puisque les personnes ne s'y arrêteront plus. Ça va provoquer 15 ans de nuisances le long de son tracé, des bruits, des poussières, des augmentations des risques d'accidents et de pollution de l'eau. Ça va dégrader durablement les territoires par ses délais colossaux, la captation des eaux souterraines et le bétonnage d'espèces naturelles et agricoles. Mais finalement, on pense que plus que l'accumulation de toutes ces raisons de pourquoi ces projets sont inutiles, la non prise en compte des revendications des habitants qui habitent sur ces territoires et la répression justifie pleinement qu'on soutienne aujourd'hui ces quatre activistes et qu'on soit attentif à toutes les luttes autour du Notav.
Voilà, on part tout de suite du côté d'Istanbul avec la police qui a tiré sur des manifestants qui a fait un mort et une dizaine de blessés dans la nuit du jeudi à vendredi lors de manifestations. Nous n'avons pas pu sauver Kurt Ugur, a annoncé jeudi peu avant minuit sur Twitter le gouverneur d'Istanbul. Mutlu Ugur Kurt se trouvait aux funérailles d'un proche dans le quartier d'Okmenadi, près du lieu d'une manifestation. Le vice-premier ministre Bülent Arins a promis une expertise des armes utilisées par les forces de l'ordre, mais l'annonce de cette mort a relancé les affrontements de ce quartier populaire d'Istanbul acquis à la gauche. Deux civils ont été blessés, dont un grièvement, ainsi que huit policiers à Okmenadi, a écrit dans la nuit sur Twitter le gouverneur d'Istanbul, présentant un bilan encore provisoire. Après avoir tiré en l'air à balles réelles, la police a visé des dizaines de manifestants qui dénonçaient les morts de la mine de Soma et le décès en mars d'un adolescent, victime de violences policières pendant le mouvement de protestation anti-gouvernementale de Gezi il y a un an. 8 personnes étaient mortes et plus de 8000 avaient été blessées. Depuis, la population était plus réticente à manifester, mais la catastrophe dans la mine de Soma, à l'ouest de la Turquie, qui a provoqué la semaine dernière la mort de 301 mineurs, a ravivé la colère des opposants et des critiques du gouvernement Erdogan. Le propriétaire de la mine est mis en cause pour avoir privilégié le rendement au détriment de la sécurité des mineurs. 8 personnes ont été inculpées et écrouées, dont le PDG. Le Premier ministre doit annoncer sa candidature à l'élection présidentielle dans les prochains jours et les autorités tentent de contenir tout mouvement contestataire.
Alors maintenant, retour en Amérique latine, où on va vous retranscrire une petite interview qu'un ami à nous a fait avec une amie brésilienne sur les conséquences du mondial. Alors du coup, est-ce que tu pourrais nous parler des conséquences qu'a eu le mondial sur la population brésilienne ?
Une des principales revendications du mouvement concerne le traitement infligé aux personnes et aux communautés vivant à proximité des stades, dont bon nombre d'expulsions. Dans ce contexte, du coup, est né le comité populaire d'Acopa qui lutte pour les droits des personnes affectées.
Et est-ce que tu pourrais nous parler de l'évolution du mouvement et des formes qu'il prend ?
C'est une question assez compliquée. Je crois que la revendication de la transparence sur les dépenses du mondial, ainsi que les questions relatives aux taxes versées à la FIFA, sont légitimes. Y compris qu'il faut s'interroger si la Coupe du Monde représente les besoins de la population brésilienne. En tout cas, ce qui est préoccupant, c'est de voir que même la droite brésilienne commence à s'approprier ses revendications du mouvement social. Le PT, c'est le Parti des Travailleurs, bien qu'il soit à l'origine issu des classes populaires, est aujourd'hui un parti centriste avec des caractéristiques néolibérales comme la privatisation, mais également des caractéristiques progressistes, par exemple l'augmentation réelle du salaire minimum, les programmes sociaux et bourses familiales, qui au final a réellement apporté aux familles les plus défavorisées. Je dis tout ça pour expliquer que le mouvement est né de réclamations réelles du mouvement social, mais que les médias s'en servent aujourd'hui au profit de la droite. À tel point que des gens de droite appartiennent aujourd'hui au cortège qui manifeste, ce qui nous pose des questions assez compliquées.
Et quelle est l'attitude des forces politiques et sociales par rapport à ce mouvement ?
Le PT cherche à faire taire la contestation et le problème c'est qu'il est coincé entre les forces de gauche et qui ont des revendications légitimes et la droite qui se sert du prétexte avec des arguments de gauche pour à des fins électorales afin de tromper les gens. Et puis plus à gauche, le PSOL, né d'une scission en fait avec le PT au début du mandat de Lula, est partagé avec certains courants qui participent au mouvement, tandis que d'autres le considèrent comme récupéré par la droite. Et il y a le mouvement aussi des Sainte-Terre qui est relativement calme parce qu'il possède également beaucoup de liens avec le PT.
Et avec tout ça, comment toi t'imagines la suite du mouvement ?
Je pense que les protestations vont s'intensifier pendant le mondial. On voit même apparaître depuis peu dans ce mouvement la revendication de démilitarisation de la police. Mais toutefois, moi je reste préoccupée par les idées réactionnaires qui entourent ce mouvement et qui trouvent beaucoup d'audience dans la population brésilienne en ce moment.
Merci beaucoup. Voilà, après ce petit tour par l'Amérique latine, retour au national. Et on avait bien envie de vous parler aujourd'hui des Calais et des mouvements d'au border. C'est des mouvements dont on parle souvent parce que la répression est extrêmement forte à Calais vis-à-vis des migrants. Et les no border de Calais ont envoyé un appel à venir les soutenir la semaine prochaine. Alors pourquoi ? Donc du coup, je vais vous lire cet appel. Donc appel à venir soutenir sur place, expulsion imminente des camps de migrantes. Appel à toutes les squatteuses, sans-abri, antifascistes et toute autre personne motivée à venir soutenir la lutte à Calais. Tous les squats et camps vont être évacués dans les prochains jours. Le 27 mai, les trois campements, obtenus par les exilés en lutte après de longues séries d'expulsions et de harcèlement, abritant plus de 600 personnes, seront détruits par la police sans qu'aucune solution ne soit proposée pour les personnes en transit. Par ailleurs, un centre social et deux autres squats sont expulsables à partir du 30 mai. Ce sont donc plus de 800 personnes qui vont se retrouver à la rue. Dans cette ville de passage avant l'Angleterre, le squat est la seule solution d'hébergement qui existe. C'est aussi un outil de lutte et de résistance pour protéger les exilés des violences et du harcèlement policier qu'ils et elles subissent dans les campements et dans la ville. Aujourd'hui, une nouvelle étape dans la lutte contre les squats vient d'être franchie par la mairesse de Calais. Cette fois, elle a décidé de faire une proposition de loi pour modifier les 48 heures. Vous savez, cette loi de 48 heures qui dit que si on a des preuves qu'on est depuis plus de 48 heures dans un squat, c'est notre logement principal et qu'on peut y rester. Et donc, nous avons très peu d'éléments sur le contenu de cette proposition de loi, mais nous savons qu'elle ira évidemment à l'encontre du droit du logement pour toutes et tous. Tous les futurs squats de France seront mis en danger par cette loi. Nous appelons donc dès maintenant toutes les squatteuses à mettre en place dans leurs villes respectives des actions pour faire barrage à cette atteinte grave au droit au logement. Surtout, nous appelons toutes les squatteuses militantes à venir combattre cette proposition de loi là où elle est née, à Calais. Nous appelons à venir résister à ces expulsions et à squatter des nouveaux bâtiments vides à Calais. Nous appelons toutes ceux et celles qui pensent que ce jeu du chat et de la souris qui dure depuis des années à coups d'expulsions incessantes sans solution de relogement doit cesser. Antifascistes, militantes, activistes, zadistes, marcheurs de la liberté, venez soutenir la lutte à Calais la semaine prochaine et toutes les autres.
Oui, donc on passe tout de suite au local avec le problème du contrôle des mineurs isolés à Lyon. En effet, le 16 mai, un jeune Narek Nalbayan, qui est originaire de Russie, a été incarcéré et avec donc un procès qui a eu lieu directement après sa garde à vue, et il a écopé du coup de 2 mois ferme. Donc il est actuellement en prison à Korba. Il rejoint là-bas Al-Qassim Mahamat, un autre jeune qui a été incarcéré le 2 avril et lui qui a écopé de 4 mois avec 206 000 euros d'amende. Voilà, donc en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces jeunes, pour se retrouver en prison comme ça? En fait, le seul problème qu'ils ont, c'est qu'ils ont passé des tests osseux qui remettent en question leur statut de mineur. Et ces tests, ils ont été faits à la demande des conseils généraux, alors même que les deux avaient donc des papiers qui prouvaient qu'ils étaient mineurs. Donc l'un avait 16 ans et demi et l'autre 17 ans, je crois. Donc ces tests, ils sont faits surtout à l'appel de la circulaire Taubira de mai 2013. Qui incite elle incite assez clairement à une traque aux mineurs isolés et du coup à pratiquer ces tests osseux. Et donc les conseils généraux suivent assez bien cette circulaire depuis quelques temps, et en général les mineurs du coup de 16 à 18 ans se font tester par des tests osseux. Et du coup dans la circulaire, elle revient sur le fait que les mineurs étrangers isolés sont une menace du point de vue des pays de l'Union européenne et qui constituent une dépense importante. Voilà. Donc sur Lyon, il y a de nombreux soutiens qui s'organisent pour ces deux jeunes, notamment de la part des lycées où ils étaient scolarisés. Et qui rejette du coup ces tests osseux. On peut rappeler du coup d'ailleurs que ces tests osseux sont irradiants et que du coup ils, parce qu'en fait c'est un, enfin les deux tests qu'ils font c'est une radio du poignet, une radio de la clavicule. Donc à la fois ils sont irradiants, donc dangereux pour la santé des jeunes pour des seuls buts administratifs. Et en plus de tout ça, ils sont absolument pas fiables. Il y a de nombreux organismes qui rejettent leur fiabilité. Et ils offrent une caution pseudo-scientifique dans le seul but de plaire aux législateurs finalement. Voilà, donc on peut rappeler que les deux avaient des papiers, l'un des papiers tchadiens, qui n'ont pas été d'ailleurs remis en cause, et l'autre un certificat de naissance russe, voilà, qui étaient des papiers réels et qui prouvaient le fait qu'ils étaient mineurs. Donc mercredi, il y a une forte mobilisation du côté de la préfecture avec les lycées qui étaient là, et on espère du coup que ça permettra la relâche un peu plus précoce de ces deux jeunes. Voilà, on parle tout de suite du côté de l'OL Land.
Voilà, donc maintenant on va partir vers Décines pour parler de ce magnifique projet de l'OL Land. Donc l'OL Land a été déclaré d'inutilité publique par la Cour administrative d'appel, c'est pas trop tôt. Toutes les déclarations d'utilité publique concernant les voies d'accès du projet OL Land ont été annulées par décision de justice. En effet, par 5 arrêts de mercredi 14, la Cour administrative d'appel de Lyon a suivi les conclusions du rapporteur public telles qu'elles avaient été exprimées à l'audience publique du 8 avril. Ce qui veut dire qu'en fait, elle a donc complètement annulé, de 1, alors, les 4 déclarations d'utilité publique concernant les accès nord, les accès sud, le parking des Panettes, ainsi que les arrêtés de cessibilité des terrains à exproprier pris par le préfet. De 2, eh bien, la délibération du Grand Lyon, qui prévoyait le cofinancement de l'aménagement du complément de l'échangeur N7 sur la RN346. Et puis enfin, la déclaration du projet du Citral relative aux aménagements concernant l'infrastructure du tram T3 à la Part-Dieu Sud, et à la Soie et à Mézieux-les-Panettes. Voilà. Et du coup, un petit rappel, le lundi 19 mai, il y a Eric Pétetin qui est passé au tribunal de grande instance de Lyon pour avoir osé dénoncer les travaux illégaux du chantier OL Land du stade de Décines de manière pacifique en janvier 2014 avec une trentaine d'autres militants pacifiques. Voilà en ce qui concerne Décines.
Et avant l'agenda, un petit peu de musique.
Give me no more, you won't give me no more, you won't give me no more, you won't give me no more, you won't
tell me.
Et donc, on vient d'écouter Mia, Tell Me Why.
Et maintenant, du coup, le journal. Enfin, pardon, l'agenda plutôt. Alors, du coup, on va se tourner déjà vers la Croix-Rousse pour parler d'un petit festival où il y a de la musique balkanique pour ce soir. C'est le festival Gipsy, donc, qui se déroule du 22 au 25 mai. Donc, c'est des concerts gratuits et c'est 4 jours de voyage à travers l'Europe, des Balkans à l'Espagne. Et donc, ce soir, à l'Esplanade, y a, au Gros Caillou, il y a des concerts. Ce soir et demain, et dimanche, c'est Place Berton. Voilà, voilà, si vous voulez vous détendre un peu. Sinon, plus sérieux, du coup, à l'Atelier des Canulars, ce soir, toujours à 20h, donc là, courez vite avant... Voilà. Soirée dédiée à l'écologie radicale et à la convergence des luttes. Donc, je rappelle, c'est 91 rue Montesquieu, dans le 7e. Donc, au programme projection du documentaire If Tree Falls, A Story of the Earth Liberation Front, puis discussion autour d'un buffet 100% vegan. Voilà. Après, pour le 24 mai, il y a une mobilisation contre les forages pour une hypothétique puits de pétrole par la société britannique Celtic et ce regroupement a lieu à Bellegarde. Sinon, toujours le 24 mai, inauguration du local rénové de la CNT 69. C'est au 44 rue Burdeau sur les pentes de la Croix-Rousse. Donc au programme à 17h, ouverture avec une exposition. Et puis après, de 20h à minuit, du sound system. Après, du coup, on va se tourner vers le squat du manoir qui, du coup, va bientôt fermer. Et donc, tous les mercredis jusqu'à expulsion, à partir de 14h jusqu'au soir, ils organisent un petit salon de thé, des activités spontanées, friperie, soutien informatique... Voilà, voilà. Et du coup, pour l'adresse, il faut aller sur capartalo, donc C-A-P-A-R-T-L-E-A-U, @riseup.net. Sinon, du coup, on saute dans quelques jours et on va au 6-7 juin, qui, où il y a un festival dans le Buget, Buget ses tripes, à Tréchard-à-Vue, c'est vers Hauteville. Donc, au programme, c'est des convergences militantes, débats, discussions. Là, c'est plus tourné, du coup, vers les traités transatlantiques, puisque, du coup, ils ont un but de créer un collectif comme ça. Et puis, bien sûr, bah, des concerts pour animer le soir. Ces deux jours sont organisés par les collectifs Pushka, Antifatigue et Artraker. Et voilà, du coup, sinon, si vous êtes intéressé, il y a plus d'infos sur bugetsetrip.com. Voilà, c'est la fin de l'agenda de ce soir.
Et du coup, c'est aussi la fin du Canu Info. Du coup, on vous laisse et d'autres équipes du Canu Info vous retrouvent dès lundi.
On a été le premier groupe à être banni d'Angleterre. Leur musique était jugée offensante par les associations parents.
Les paroles de certaines chansons peuvent-elles être à l'origine de troubles de l'ordre public? C'est en tout cas la crainte de la Confédération nationale des associations familiales catholiques.